entrevues. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Histoire, Mémoire et Transmission et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Dimitri Vouzel, historien et chercheur, et nous, c'est l'occasion de parler de Jean-Pierre Azéma. Jean-Pierre Azéma, historien assez connu, né en 1937 à Paris et qui est décédé il y a quelques jours, le 14 juillet 2025, à Paris. Un historien assez connu, et M. Vouzel va nous parler tout de suite de son histoire et de son rapport à l'histoire, avant de parler du contenu de ses livres.
Alors bonjour, donc, pour le rapport à l'histoire donc, de Jean-Pierre Azéma, je pense qu'il faut rappeler son origine familiale, le milieu dans lequel il a grandi. Donc il est né en 1937, hein, donc il a 7 ans à la Libération. Et son père, lui, a fait le choix plutôt de la collaboration. Son père, c'est Jean Azéma. Donc, il est plutôt proche, avant-guerre, des milieux d'Action française. Et puis, par exemple, de Robert Brasillach, également un des collaborateurs sous l'occupation. Et sous Vichy, en fait, son père devient une voix, puisqu'il va notamment collaborer à Radio Paris. Donc son père est une des voix de Radio Paris, hein, une des voix, j'allais dire, du gouvernement de collaboration de l'État français. Son père va aussi écrire, alors il ne fait pas que s'exprimer à la radio, il va écrire notamment dans Je suis partout, organe en particulier antisémite. Il va écrire aussi dans les journaux publiés par le Parti populaire français de Jacques Doriot. Également un tenant de la collaboration. Et puis on peut dire que son père va aller jusqu'au bout dans la collaboration puisqu'il va s'engager dans la division Wallonie. Et donc il n'y aura pas de retour vers la résistance, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'intérêt dont on va parler ensuite de Jean-Pierre Azéma, on peut peut-être utiliser le terme de Pierre Nora, d'égo-histoire, puisque son histoire familiale va l'amener à se passionner et à axer ses recherches sur, effectivement, la période qui va des années 30 jusqu'aux années 40. Donc, et en particulier, il est devenu un spécialiste du régime de Vichy et aussi de la résistance.
Alors c'est le premier point, c'est en quoi Jean-Pierre Azéma a contribué à transformer la compréhension de cette période de Vichy par rapport à ce qui se passait en France, dans les mentalités, mais aussi dans les études historiques.
Alors, il y a un ouvrage dans les années 1950, qui est un ouvrage central à l'époque, qui est donc le livre de Robert Aron, qui s'appelle « L'histoire de Vichy », qui est donc un ouvrage qui est publié en 1954. Et c'est donc dans cet ouvrage que l'on va retrouver un certain nombre des mythes concernant Pétain et l'État français. Par exemple, dans cet ouvrage, il y a le mythe du bon Vichy et du mauvais Vichy, le bon Vichy étant incarné par le maréchal Pétain, le mauvais Vichy étant incarné par Pierre Laval. Et en fait, quand Jean-Pierre Azéma, après des études, hein, puisqu'il fait hypocagne, cagne, agrégation, et donc va s'engager dans la recherche en lien avec cette période, pour lui, en quelque sorte, ce livre d'Aron est tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de livre historique, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un ouvrage qui, en fait, cite très peu de sources. Or, pour faire l'histoire, qu'elle soit de cette période ou d'autres périodes, il est indispensable d'avoir des sources solides, des sources également nombreuses. Et puis, également, il y a beaucoup, en fait, de citations, hein, beaucoup de citations d'acteurs et de témoins de cette période, puisqu'effectivement son ouvrage sort en 1954. En 1954, il y a encore de nombreux anciens ministres, anciens secrétaires d'État, anciens acteurs de cette période qui sont vivants. Et donc, très souvent, Jean-Pierre Azéma va citer ce livre comme un contre-exemple de ce qu'il faut faire en histoire. Et Jean-Pierre Azéma va accorder beaucoup d'importance à la méthode historique qui est basée en particulier sur les sources.
Donc, quel sera finalement son propos, si vous pouvez le résumer, de chercheur, d'historien, et ensuite évidemment qui aura un effet sur l'évolution des mentalités dans notre pays?
Alors sa méthode historique, c'est bien sûr, il y a des témoignages oraux, hein. On ne peut pas les nier, et lui aussi a tenu compte des témoignages oraux, mais par contre, il faut systématiquement les recouper avec des sources écrites pour évaluer leur pertinence. Un témoignage oral, par définition, n'est pas forcément un mensonge, mais un témoignage oral, c'est la mémoire d'une personne qui a été, à un certain moment donné, dans la collaboration ou dans la résistance. Ce témoignage, il est utile pour l'historien, mais il n'est pas suffisant. Et donc, Jean-Pierre Azéma insistera toujours sur la méthode historique de recouper les témoignages avec des sources écrites. Et bien sûr, avoir des sources, si possible, de première main, et pas des sources de seconde main ou répétées par d'autres.
Parce que dans le fond, quand il écrit, quand il travaille, quelle est la vision qu'on a en France du régime de Vichy?
Alors on a une vision... Alors lui, il va travailler dans les années 70, 80, 90, hein, et on rappelle que jusqu'à la fin des années 1960, le régime de Vichy est perçu comme étant sous la totale... férule de l'occupant allemand, n'étant pas du tout autonome dans ses décisions et étant contraint, hein, c'est comme cela notamment que Aron explique, étant contraint de collaborer. Et en quelque sorte, étant, notamment du côté de Pétain, étant un moindre mal par rapport à ce qu'aurait pu être la situation sur la France si le maréchal Pétain n'avait pas été là. Et donc, bien sûr, avec les travaux de Robert Paxton, hein, qui sera un des pionniers, mais ensuite aussi avec les travaux de Jean-Pierre Azéma, toute cette doxa et toutes ces mythes concernant l'action de Vichy va être remise en question, hein, tous ces tabous également vont être remis en question dans les années 1970, et bien sûr de plus en plus ensuite dans les années 1980-1990 avec l'ouverture des archives, où là on va comprendre que, un, la collaboration c'est une demande de l'État français. C'est une demande de Vichy. On a tous en tête la fameuse poignée de main de Montoire du 24 octobre 1940. Mais en fait, c'est le maréchal Pétain, pardon, qui souhaite la collaboration avec l'Allemagne. Et puis également, ce que démontre Paxton, mais aussi Jean-Pierre Azéma, c'est que le gouvernement de Vichy, enfin, ou l'État français, prennent aussi des initiatives sans qu'il y ait une quelconque pression de la part des autorités allemandes. Et donc tout ça va être établi, et l'ouvrage, qui est un classique, qui a été lu par de nombreux étudiants, c'est l'ouvrage donc, de Jean-Pierre Azéma, De Munich à la Libération, hein, qui explique et qui rend tout à fait accessible tout ce savoir historique.
Oui, c'est ça, qui est paru assez tardivement, dans le fond, en 1979, c'est assez récent. Tout est relatif, mais...
Alors un autre point peut-être aussi intéressant, c'est que Jean-Pierre Azéma va être un des tenants, pas le seul bien sûr, mais un des tenants de ce qu'on appelle l'histoire du temps présent. Le fait qu'il ne faut pas attendre des siècles avant d'aborder des thèmes historiques. Effectivement, dans les années 70, parler de résistance, parler de collaboration, c'est des choses qui sont encore extrêmement chaudes. Et donc ça va être un des tenants de cette histoire du temps présent, qui est donc fondamentale.
Alors comment va-t-il traiter le travail de mémoire? Quels sont les axes principaux du travail de mémoire? Parce que du coup, il remet en cause, il re-questionne la mémoire officielle, les mémoires, à travers sa rigueur scientifique, mais du coup, il développe une autre façon qui peut-être a abouti à ce que tout le travail qui est fait actuellement dans l'enseignement.
Alors il va bénéficier d'un travail énorme, hein. Il faut rappeler le rôle d'Henri Michel. Henri Michel, ancien résistant, qui va être à la tête du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui a pour but en particulier de récupérer des archives. Des archives publiques qui ont été disséminées, des archives également privées. On peut penser par exemple aux archives des maquis, hein, qui ont parfois été conservés par ceux qui ont participé aux actions. Et donc, dans ce comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir une recension, une collecte d'archives très importantes dans les années 1970. Il va y avoir aussi des enquêtes qui sont menées, puisque le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale avait des délégués dans tous les départements. Et ces délégués vont mener des enquêtes de collecte d'informations, également d'interviews de ceux qui ont participé et qui ont fait particulièrement la résistance. Et donc Jean-Pierre Azéma va travailler sur ces archives hein, du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui va se transformer d'ailleurs en IHTP, en Institut historique du temps présent, mais qui va poursuivre donc, les travaux qui avaient été initiés par Henri Michel dans le cadre de ce comité. Donc lui va travailler sur les archives, et il va toujours considérer que c'est bien sûr le matériau essentiel pour les historiens.
Donc il a eu un effet aussi donc, sur le travail, l'enseignement, et on peut dire que les générations d'étudiants qui succèdent aux travaux, notamment de M. Azéma, auront une autre façon de travailler et de faire de l'histoire à l'université.
Oui, et puis ils auront la chance aussi d'avoir des archives ouvertes, hein, parce qu'il faut quand même se rappeler le contexte. Hein. Robert Paxton, lui, travaille sur des archives allemandes, mais qui sont détenues par les Américains. Les archives dans les années 70, elles sont souvent fermées et difficiles d'accès pour les chercheurs. Donc Jean-Pierre Azéma va contribuer également à l'ouverture de ces archives, ayant mis en avant le côté fondamental de leur contenu.
Oui, alors on peut dire que le professeur Azéma, donc, il était expert pour le procès Maurice Papon, on en a beaucoup parlé, bon là c'était vraiment l'historien. Il était conseiller historique pour des séries télévisées comme Un village français, et je crois qu'il a travaillé pour le documentaire de Claude Chabrol, L'œil de Vichy. Alors il était président du comité historique, je crois, de la mission interministérielle des guerres mondiales.
Ça oui,
ça, dans,
ça
dans,
tu le dis, ça.
Après les années 2000, ouais. 2010, je crois. Et puis il écrit pas mal de livres. Alors je ne sais pas, vous avez parlé au début de votre intervention de quelque chose d'important dans sa vie personnelle, c'est-à-dire en fait l'engagement de son père, qui ne devait pas simple, en tout cas qui a peut-être un rapport avec sa vocation d'historien. Et il a fait un livre qui est assez connu, enfin, finalement, est pas si connu que ça, justement, qui s'appelle « L'occupation expliquée à mon petit-fils », qu'il écrit en 2012, qui serait intéressant de relire maintenant que Jean-Pierre Azéma est décédé, pour essayer de voir le lien qu'il fait dans la transmission lui-même, et, ayant été à 7 ans, comme on est dit à la fin de la guerre, avec un père qui avait collaboré jusqu'au bout, avec un engagement extrêmement profond et décidé dans la collaboration.
Oui, il explique d'ailleurs qu'il a revu son père en Argentine dans les années 60. Hein, donc avant, donc pendant très longtemps, et là, il a pu beaucoup échanger avec lui. Et c'est notamment dans ces échanges qu'il a pu aussi comprendre le contexte dans lequel son père a fait ses choix. Et ça, je trouve que c'est aussi un point important pour l'historien. Un historien n'est pas un procureur. Un historien n'est pas un juge. Mmh. Un historien, en fait, est là pour essayer de comprendre le contexte. Non pas d'excuser non plus, hein, c'est pas le but, mais de comprendre dans quel contexte ces personnes ont fait des choix, alors qui aujourd'hui peuvent nous sembler des choix totalement amoraux, ou immoraux même, pour certains d'entre eux, mais qui doivent être placés dans le contexte pour les comprendre. Et ça, je trouve que c'est aussi une leçon qui nous a laissée pour tous les historiens qui travaillent aujourd'hui et qui continueront de travailler dans l'avenir.
Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut être un citoyen engagé avec des idées, notamment lui, il défendait beaucoup la notion de responsabilité individuelle. Je me souviens qu'au moment du procès de Papon, il a rappelé que tout le monde avait une conscience et pouvait décider, malgré tout, mais en même temps, ce qui ne l'empêchait pas par ailleurs d'être d'une rigueur absolue dans son travail d'historien, de ne pas mélanger ses idées, ses sentiments, l'actualité et son travail extrêmement rigoureux, continu, qu'il a transmis à beaucoup d'étudiants, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Et c'est fondamental pour l'historien d'avoir cette méthode à la fois critique, mais également la plus objective possible. Et donc de laisser de côté ses engagements effectivement personnels, parce que tous les historiens ont des engagements personnels, laisser de côté son affect, voire de laisser de côté ses sentiments par rapport au sujet, pour laisser parler en fait les archives. Ça ne veut pas dire qu'elles sont désincarnées, mais ça veut dire que c'est le lecteur ensuite qui voit l'ensemble, la complexité, les zones grises, la difficulté aujourd'hui avec notre vision actuelle de juger ce qui fut décidé en 43 ou 44.
Oui, vous avez prononcé le mot de complexité, je crois que ça définit bien la position du chercheur et de l'homme, qui rappelait qu'il fallait accepter la complexité de la période, sans œillères, sans parti pris, et intégrer l'ensemble des acteurs résistants comme les collaborateurs, et y compris la majorité des Français qui prenaient pas position, qui étaient passifs. Je suis donc avec Dimitri Vouzet, le chercheur et historien, et peut-être qu'il nous résume en quelques mots pourquoi il était important de faire une émission concernant l'historien Jean-Pierre Azéma, qui est décédé le 14 juillet dernier.
Alors peut-être trois points. Le premier, parce que c'est un spécialiste, un grand spécialiste à la fois du régime de Vichy et de la Résistance. Le deuxième point, c'est parce que il est un des exemples, et pour presque tous les historiens, on peut retrouver cet élément de ce qu'on appelle l'égo-histoire. Hein, donc il y a son passé qui explique certainement l'objet de ses recherches. Et puis, le dernier point, c'est la méthode historique. Hein, donc, toujours recouper les témoignages avec des sources écrites et rappeler la complexité de l'histoire, en particulier de cette période.
Très bien. Merci beaucoup, monsieur Dimitri Vouzet, de nous avoir éclairé sur cet historien important de notre pays. À bientôt.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.